Monseigneur le bourgeois qui est à Rome, visite ad limina. Faut pas l'oublier, puisque... On lui a promis de prier pour lui, là. Faut pas l'oublier. On va continuer. Avec Saint Jean de la Croix. Et si c'est vraiment du néoplatonisme, écoutez attentivement et puis vous verrez si c'est du néoplatonisme. Pour moi, ça n'est pas du tout, ça n'est rien. C'est toujours intéressant quand les gens vous disent que c'est du néoplatonisme, de leur montrer que ça ne l'est pas. Et que toute la structure, au contraire, profonde, est beaucoup plus celle de saint Thomas. Parce que l'argument, c'était dire Saint Jean de la Croix a reçu une formation thomiste à Salamanque. Ce qui est très juste. Il était même un très bon élève. Parce qu'il avait été remarqué pour être un peu répétiteur. Et puis, quand il s'est mis à voler ses propres ailes, il est retombé dans le néoplatonisme pour exprimer ce qu'il vivait. Comme si le néoplatonisme était l'expression la plus adéquate de la vie mystique. Que ce soit descriptif, on est tous d'accord. Mais la description existait avant le néoplatonisme. Et ce n'est pas le néoplatonisme qui a inventé l'aspect descriptif. Alors, troisième strophe, je vous... Je reprends. Aux lampes de feu, dans les splendeurs desquelles des profondes cavernes du sens, qui étaient obscures et aveugles, donnent avec une perfection extraordinaire chaleur et lumière, tout à la fois à leur bien-aimé. Nous avions vu que dans cette troisième strophe, il y avait tout un aspect de ce mystère, de la présence d'immensité qui revenait avec cet aspect aux lampes de feu. Oh, quel spectacle admirable! Voilà cette âme qui épanche alors des eaux divines. Elle est transformée en une source abondante qui rejaillit de toutes parts dans les eaux divines. Source d'eau vive, voyez bien. Sans doute, les connaissances dont nous parlons sont la lumière et le feu de ces lampes divines. Mais ce feu, je le répète, est d'une telle suavité que tout immense qu'il soit, il ressemble à ces eaux vives qui étanchent la soif de l'esprit aussi promptement qu'il le désire. Ainsi, ces lampes de feu signifient les eaux vives de l'Esprit Saint. Comme celles qui descendent sur les apôtres. Elles étaient à la fois des lampes de feu et des eaux pures et limpides. C'est ainsi que les appelle le prophète Ézéchiel, quand il annonça en ces termes la venue de l'Esprit Saint. Je répandrai sur vous, a dit le Seigneur, une eau pure. Et je mettrai mon esprit au milieu de vous. Ainsi donc, ce feu est en même temps de l'eau. Et ça, c'est tout à fait du néoplatonisme. Ce feu est tout à fait de l'eau. Je crois qu'il faut vraiment, de temps en temps, comprendre justement qu'on n'est pas du tout au niveau de la réflexion du néoplatonisme. Pas du tout, ça n'a rien de commun avec ça. Il décrit quelque chose qui dépasse infiniment. Le contraire exprime l'amour. On sait bien, l'amour vous rend vulnérable, l'amour vous rend fort. L'amour, c'est à la fois le feu et l'eau. Mais c'est pas du tout les néoplatoniciens qui ont dit ça. C'est au contraire. contraire. J'allais dire quelque chose de bien plus aristotélicien qui montre les contraires. Peuvent très bien s'unir dans l'être supérieur. L'eau et le feu sont des contraires pour notre monde physique. Ils sont plus contraires dans le monde de l'esprit. Puisque précisément, on se sert de tous les symbolismes du monde physique pour exprimer des réalités au-delà. L'amour humain, c'est à la fois de l'eau et à la fois du feu. Et c'est très vrai que quand l'amour s'intensifie, le cœur est brûlant. Et en même temps, il peut y avoir cette espèce de fraîcheur. Il est figuré par le feu du sacrifice que Jérémie avait caché dans une citerne. Tant qu'il demeurait caché, il semblait de l'eau. Et quand on le sortait de la citerne pour le sacrifice, il retenait du feu. Vous voyez ça? Voilà pourquoi, tant que cet esprit de Dieu est caché dans les veines de l'âme, c'est un langage symbolique, il ressemble à une eau suave et délicieuse qui étanche la soif de l'esprit. Mais ça, en tant qu'il sert au sacrifice d'amour qui est offert à Dieu, il se transforme en vive flamme de feu. Ce sont les lampes qui procèdent de l'acte même de la dilection, ou ces flammes dont parle l'époux au livre des Cantiques, comme nous l'avons vu plus haut. Aussi l'âme leur donne ici le nom de flamme, car non seulement elle en goûte la suavité comme celle des eaux limpides, mais elle s'en sert comme de flamme pour s'embraser de l'amour de Dieu. Mais quand elle considère la communication de l'esprit de ses lampes, l'âme qui en est embrasée, qui est placée dans l'exercice de l'amour, qui est dans l'acte d'amour, les appelle plutôt des lampes que des eaux vives. Quand elle dit aux lampes de feu. Donc c'est le point de départ pour exprimer l'intensité de l'amour. Et vous voyez, la petite explication qu'il donne au terme est intéressante. Mais quand elle considère la communication de l'esprit de ses lampes, l'âme qui en est embrasée, qui est placée dans l'exercice de l'amour, qui est dans l'acte d'amour, les appelle plutôt des lampes. Peu des eaux vives, quand elle dit aux lampes de feu. Tout ce que l'on peut dire ici est au-dessus de la réalité, est au-dessous de la réalité. Car la transformation de l'âme en Dieu est quelque chose de vraiment ineffable. Tout se résume en un mot. L'âme devient Dieu par une participation à sa nature et à ses attributs que nous désignons ici sous le nom de lampe de feu. C'est très beau, parce que il revient, vous voyez, à ce qui est le plus classique. La grâce, participation à la nature de Dieu. Et il le dit, on ne peut pas dire quelque chose de plus. L'âme devient Dieu par une participation à sa nature et à ses attributs, que nous désignons ici sous le nom de lampe de feu. Alors ça, ce qui est très beau, c'est que tout le traité des attributs divins que nous avions vus précédemment, si vous vous souvenez, sont vus de l'intérieur, dans une perspective de théologie mystique. Vous voyez, quand on voit les attributs de Dieu dans saint Thomas, on est en présence d'une analyse de théologie scientifique. Alors, saint Thomas étudie ces attributs comme des manières d'exister de Dieu. Dieu est totalement simple. Aucune composition en Dieu. Dieu est absolument parfait. Dieu est la souveraine bonté. Dieu est infini. Donc, toutes les manières d'exister de Dieu. Au point de vue théologie mystique, on doit les voir à travers l'amour. Et alors, tout devient des flammes. Lampes de feu. On comprend cette perspective et vous avez ces lampes de feu. Ça qui est très beau, c'est là on voit très bien que toute la théologie scientifique de saint Thomas est présente, mais elle est vécue de l'intérieur. La plupart du temps, c'est toujours le danger de la seule théologie de saint Thomas, c'est qu'on la regarde d'une manière extérieure, donc on tombe dans la logique. Si, au contraire, on essaie de la comprendre de l'intérieur, alors c'est l'aspect mystique. Et c'est pour ça que c'est beau. Quand on voit le traité des manières d'exister de Dieu, de comprendre comment, d'une manière mystique, tout est vu comme des lampes de feu. Aux lampes de feu, dans les splendeurs desquelles les profondes cavernes du sang est obscur et aveugle, donne avec une perfection extraordinaire chaleur et lumière tout à la fois à leur bien-aimé. Donc l'âme plongée dans le mystère de l'amour de Dieu vit et expérimente les attributs de Dieu, les manières d'exister de Dieu. Ça c'est très très beau. Pour essayer de comprendre les modalités différentes de la présence d'immensité vécue d'une manière mystique. Parce que je crois que c'est vraiment ça. C'est Dieu dans sa simplicité absolue qui est vécu de l'intérieur et qui se donne présent. Donc dans les splendeurs desquelles, comprenons bien ce qu'il faut entendre par ces splendeurs des lampes dont l'âme parle ici et comment l'âme y resplendit. Sachons-le bien, ces splendeurs sont les connaissances pleines d'amour que les lampes des attributs de Dieu donnent d'elles-mêmes à l'âme. Elle leur est unie par ses puissances, elle resplendit comme elle, elle est transformée en splendeur pleine d'amour. Mais l'éclat de ces splendeurs pleines d'amour dont l'âme brille ne sont pas comme les lampes matérielles qui illuminent de leurs flammes les objets environnants, mais comme des lampes qui sont au-dedans des flammes, parce que l'âme est au-dedans de ses splendeurs. Voilà pourquoi elle dit « dans les splendeurs desquelles », ce qui signifie qu'elle est à l'intérieur. Il y a plus, car nous l'avons déjà dit, elle est transformée en splendeur. Elle est devenue splendeur. Il en est d'elle comme de l'air qui est au-dedans de la flamme, où il est embrasé et transformé en flamme. La flamme, en effet, n'est que de l'air embrasé. Les mouvements et les splendeurs de cette flamme ne viennent pas uniquement de l'air, ni uniquement du feu, mais de l'un et de l'autre tout à la fois. Le feu embrase l'air et le retient enflammé. Cette comparaison nous fait comprendre que l'âme, avec ses puissances spirituelles, au-dedans des splendeurs de Dieu. Donc, cette comparaison nous fait comprendre que l'âme, avec ses puissances, resplendit au-dedans des splendeurs de Dieu. Les mouvements de cette flamme divine, c'est-à-dire les vibrations, les jets de flammes dont nous avons parlé plus haut, l'âme transformée par les flammes de l'Esprit Saint, n'est pas seule à les produire, ni l'Esprit Saint non plus. Ils sont l'œuvre simultanée de l'un et de l'autre, de telle sorte que l'Esprit Saint agit sur l'âme comme le feu sur l'air enflammé. Ces mouvements de Dieu et de l'âme réunis sont non seulement des splendeurs, mais encore des glorifications pour l'âme. Ces mouvements et ces jets de flammes sont des manifestations et des fêtes d'allégresse que l'Esprit Saint célèbre dans l'âme. Comme nous l'avons dit au second vers de la première strophe, il semble constamment sur le point de lui donner enfin la vie éternelle, en l'introduisant dans son royaume, où elle partagera véritablement sa gloire à l'état parfait. Quant au bien dont il l'a comblé et dont il l'enrichira encore, grand ou petit, il lui accorde toujours dans le but de la conduire à la vie éternelle. Or, de même que le feu, par ses mouvements et ses agitations, tend toujours à entraîner vers le centre de sa sphère l'air qui l'enflamme, il manifeste une lutte continuelle pour l'embraser davantage, parce que ce feu est dans sa sphère propre. De même, l'Esprit Saint, qui produit ces mouvements très efficaces, d'ailleurs, pour embraser l'âme dans une gloire immense, n'achève pas son œuvre jusqu'au sommet où elle sortira de la sphère dans laquelle se meut la vie de la chair, et où elle pourra entrer dans le centre de l'Esprit ou de la vie parfaite dans le Christ. Nous devons savoir néanmoins que ces mouvements de la flamme sont tantôt des mouvements de l'âme que de, sont plutôt des mouvements de l'âme que de Dieu, car Dieu ne se meut pas. Aussi, ces vues de la gloire qui sont déjà données à l'âme sont stables, parfaites, continuelles et pleines d'une sérénité profonde et toute divine. Tel sera l'état de l'âme quand elle n'éprouvera plus d'alternative dans l'intensité de ses faveurs, ni d'interruption dans le mouvement de son amour. Elle verra alors clairement comment Dieu, qui semblait se mouvoir en elle, est en soi immuable, ainsi que le feu qui, dans sa propre sphère, ne se meut pas. Et comment elle avait elle-même ces mouvements dont nous avons parlé et ces transports vers la gloire, parce qu'elle ne possédait pas l'état de gloire à l'état parfait. Donc, ici, Saint Jean de la Croix veut faire comprendre cette coopération de l'Esprit Saint et de l'âme. Voyez, c'est très intéressant, parce que quand on dit que Saint Jean de la Croix tombe dans la passivité absolue, c'est tout à fait faux. Il montre bien que c'est l'activité suprême de l'âme sous le sceau de l'Esprit-Saint. Une activité qui n'est plus une activité rationnelle, qui est une activité purement intérieure. Mais c'est une activité. Et l'unité est tellement grande qu'on croit que c'est l'Esprit qui agit. Et en réalité, c'est l'âme qui agit sous le sceau de l'Esprit. Il faut bien montrer la fusion, l'unité entre l'âme et l'Esprit Saint. Et entre l'âme et l'Esprit Saint, il y a cette action commune que Saint Jean de la Croix, en poète divin, exprime de cette manière. Ça, c'est tout à fait tout le mode poétique. Dans les splendeurs desquelles, et ces splendeurs, c'est l'Esprit Saint est là, c'est la montée de l'âme vers Dieu, si vous voulez, et c'est Dieu qui prend possession de ce qu'il y a de plus intime en nous. Ce que nous venons de dire et ce que nous allons exposer nous fera comprendre plus clairement toute l'excellence des splendeurs de ces lampes dont nous parlons et qu'on peut appeler aussi des ombrations. Ça, c'est très beau, là, ce passage. C'est le mystère de la présence d'immensité vue dans la lumière de la grâce. Pour l'intelligence de cette assertion, il faut savoir que l'ombration n'est autre chose que l'action qui produit l'ombre. Et cette action équivaut à celle de protéger, favoriser, accorder des grâces. Car si une personne en couvre une autre de son ombre, c'est un signe qu'elle est près d'elle pour la favoriser et la protéger. Donc l'ombrovation, c'est l'action de Dieu sur l'âme, Dieu qui la prend sous sa protection et qui lui permet d'agir avec une liberté plus grande. Voilà pourquoi voulant désigner l'insigne faveur qui fut accordée à la Vierge Marie lorsque le Fils de Dieu s'incarna en elle, l'ange Gabriel l'appelle une ombration de l'Esprit Saint. Il dit en effet, l'Esprit Saint surviendra en vous et la vertu du Très-Haut vous couvrira de son ombre. Pour bien comprendre ce que signifie cette ombre de Dieu, ou cette ombratio, ou ces splendeurs, car toutes ces expressions ont la même signification. Il faut savoir que chaque chose produit une ombre, qui est en rapport avec sa forme et ses propriétés. Si la chose est opaque, ou obscure, elle donne une ombre obscure. Mais si la chose est claire et subtile, donne une ombre claire et subtile. Ainsi, l'ombre d'une chose ténébreuse sera ténébreuse comme elle, mais l'ombre d'une lumière sera également lumière comme elle. Ça, c'est très joli, hein, parce que pour nous, l'ombre, c'est toujours un peu ténébreux. Ça, je la crois, redonne à l'ombre sa signification intérieure. On voit très bien le procédé, le procédé du cerveau sapientiel, si j'ose dire. C'est de toujours tout reprendre par l'intériorité de l'amour. Et ça, c'est pas du tout la démarche néoplatonicienne. Mais c'est tout à fait autre chose qu'une démarche. C'est une démarche symbolique, c'est évident. Mais c'est toujours essayer de reprendre par l'intériorité de l'amour. Et de tout ce que nous avons, regardez soi, puisqu'on est particulièrement éveillé à ça, c'est extrêmement net, c'est marqué que c'est un des lieux les plus étonnants pour soi. L'ombre ombratio, je la prendrai sous son ombre. L'Esprit Saint, le Très-Haut, te prendra sous son ombre. Alors, c'est évident que c'est pas extérieur. C'est pas comme si on est sous l'ombre d'un arbre. C'est pas ça du tout. C'est comprendre l'action de l'Esprit Saint qui, nous transformant de l'intérieur, nous met à son rythme divin. Et comme l'Esprit Saint est lumineux et chaleur, cette ombration sera lumineuse et brûlante. Et nous comprendrons alors ce que représentent ces lampes et cette splendeur. Ce sera tout simplement, on pourrait dire, comme une vie avec. Oui, c'est pas la participation, c'est une vie avec. On vit avec quelqu'un, alors on vit sous son ombre. Parce qu'on vit avec cette personne. Et vivre avec cette personne, c'est communier à elle. Et communier à elle, c'est donc être directement sous son action. De Dieu, étant des lampes embrasées et resplendissantes, qui se trouvent très rapprochées de l'âme, ainsi que nous l'avons dit, elles ne pourront manquer de la toucher de leur ombre. Et ces ombres seront donc embrasées et resplendissantes comme ces lampes qui les produisent. D'après ce principe, l'ombre que produit sur l'âme, la lampe de la beauté de Dieu sera une autre beauté conforme à la figure et à la propriété de la beauté divine. L'ombre que produit sur elle la force sera une autre force en rapport avec celle de Dieu. L'ombre sagesse de Dieu sera une autre sagesse semblable. Et ainsi pouvons-nous raisonner des autres lampes, ou pour mieux dire, ce sera la même sagesse, la même beauté, la même force de Dieu en ombre. C'est Dieu en ombre, c'est très joli, n'est-ce pas ? C'est le même mystère, mais c'est le mystère participé. Et pour exprimer que ce n'est pas statique et que cette participation fait vivre l'âme à l'unisson même du mystère de Dieu, il a pu employer ce terme. Et on comprend très bien. C'est comme si on était entraîné, oui, par le même feu pour vivre le même mystère. Cette ombre étant, selon la figure et la propriété de Dieu, étant Dieu lui-même, l'âme y connaît très bien l'excellence de Dieu. Ça, c'est très audacieux de dire que l'ombre, c'est Dieu lui-même. C'est très audacieux, mais dans un langage mystique, on comprend. Et vous voyez, c'est là on pourrait dire, mais c'est panthéiste. C'est un super panthéisme. Parce que l'ombre n'est pas Dieu, elle provient de Dieu. Elle provient de Dieu, non pas comme un effet, elle provient de Dieu comme un appel de Dieu, comme Dieu qui s'empare de l'âme et qui fait vivre l'âme à l'unisson. C'est tout le mystère surnaturel, si vous voulez, qui n'est pas au sens strict à comparer par le point de vue de la création. Cette ombre étant selon la figure et la propriété de Dieu, étant Dieu lui-même, l'âme y connaît très bien l'excellence de Dieu, d'après ce principe qu'elles ne doivent pas être les ombres que produira le Saint-Esprit sur les grandeurs de ses vertus et de ses attributs dans une âme quand il est si près d'elle. Il pense à la Sainte Vierge. Non seulement il la touche de ses ombres, mais il lui est uni par ses ombres et ses splendeurs. Aussi comprend-elle Dieu et elle le goûte dans chacune d'elles, dans la mesure où il reproduit en chacune d'elles sa face et ses propriétés. Donc vous montrez toutes les modalités de la présence de Dieu. Il les prend en fonction même des attributs divins. Ce qui est normal. C'est toutes les présences. Si vous allez traiter des présences de Dieu, vous prendrez toutes les manières d'exister de Dieu qui, par l'amour, deviennent ombre. Vous voyez comment on passe de la manière d'exister par l'amour à l'ombre. Puisque l'amour fait que tous ces attributs se communiquent, sont diffusés et deviennent l'ombre. Et l'âme vit à l'ombre de ces manifestations de Dieu. Aussi comprend-elle Dieu et elle le goûte dans chacune d'elles, dans la mesure où il reproduit en chacune d'elles sa face, c'est-à-dire sa présence, et ses propriétés, ses manières d'exister. Elle comprend et elle goûte en effet la toute-puissance divine dans l'ombre de cette toute-puissance. Elle comprend et goûte la sagesse divine dans l'ombre de cette sagesse. Elle comprend et goûte la bonté infinie dans l'ombre de bonté infinie qui l'entoure. Finalement, elle goûte la gloire de Dieu dans l'ombre de gloire qui lui fait connaître la propriété et l'image de la gloire de Dieu. Or, toutes ces choses se passent dans ces ombres claires et embrasées, produites toutes par ces lampes claires et embrasées. Mais si elles resplendissent dans cette âme, de toutes les manières dont nous venons de parler, elles ne sont néanmoins qu'une seule chose, dans la simplicité et l'unité de Dieu. Donc il ne faut jamais s'arrêter à la multiplicité. Il faut comprendre qu'au-delà de cette multiplicité, de ces modalités diverses présentes, de ces ombres différentes, il y a l'unité et la simplicité. Oh, quels ne seront pas les sentiments de l'âme? Ce n'est pas les sentiments du moi, c'est tout à fait autre chose. C'est les sentiments de l'âme quand elle éprouvera ici, par une connaissance expérimentale, ce que furent les enseignements de la vision d'Ézéchiel. Il contempla des animaux mystérieux aux quatre faces et une roue composée de quatre roues. Alors vous allez voir l'exégèse d'Ézéchiel.
Ça veut dire
ça qui est très intéressant. En le filant, ils disent qu'Ézéchiel a vécu. Il n'y a pas beaucoup d'exégètes qui peuvent dire ça aussi. Hein. Les exégètes regardent l'image de l'extérieur et voient tous les lieux parallèles des roues. Des animaux, des chérubins, ils regardent l'extérieur de l'image. Un peu la matérialité. Ça qu'on regarde. Comme un peu un psychologue qui s'intéresse à la symbolité mystique regarde les différents symboles. Pourquoi tel genre de mystique envoie tel symbole et tel autre genre de mystique envoie tel autre symbole? Je connais quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à cette symbolique mystique. C'est très intéressant, je comprends très bien. Mais il les regarde de l'extérieur. Bon, philosophe, théologien de la symbolique mystique. Ce qui est merveilleux chez Saint Jean de la Croix, et ce qui est assez unique, là, c'est vraiment le don d'intelligence. Le don d'intelligence nous fait regarder de l'intérieur la parole de Dieu. Mais pour la regarder de l'intérieur, il faut le vivre. Alors voyez, vous avez une herméneutique de l'intérieur. Mais ce n'est pas du tout néoplatonicien. C'est mystique. Vous regardez de l'intérieur. Quand saint Thomas dit les noces de Cana, mystice, c'est le mystère de l'oraison. C'est la même chose. Parce qu'il ne regarde plus le symbolisme de l'extérieur, de l'eau transformée en vin. Il regarde la signification vécue de l'intérieur, de l'âme transformée dans le Christ. Alors, et c'est ça qui est intéressant. Donc c'est le don d'intelligence qui fait ça. Et le sermon sapientiel qui permet de traduire. Mais ça n'a rien à voir avec une philosophie. Mais rien du tout. Bon, vous voyez, il n'y a absolument rien de systématique. Vous voyez bien. C'est une logique. La logique, elle est laissée complètement de côté. La dialectique est laissée complètement de côté. On est devant une expérience qu'on essaie de transmettre pour donner le sens à l'écriture et puis donner le sens du mystère de Dieu. Puisque c'est cette unité avec Dieu qui est tout le temps là vécue. Donc, il contempla des animaux mystérieux aux quatre faces et aux roues composées de quatre roues. Donc, une roue composée de quatre roues. Il vit que l'aspect de ces animaux mystérieux était comme celui de charbon embrasé et de lampe ardente. Donc, il retrouve les lampes ardentes. Il y a un petit point de contact. Il remarqua en outre que la roue, symbole de la sagesse infinie, était remplie d'yeux, au-dedans et au-dehors, pour signifier les connaissances de Dieu et les splendeurs de ses vertus. Donc, interprétation mystique de ce symbolisme pour en saisir la signification interne. Que n'éprouve-t-elle pas cette âme quand elle entendra, alors ça c'est ici qui est du reste, hein, dans son esprit le bruit de leur marche ressemblant au bruit d'une multitude ou d'une armée innombrable qui symbolise les innombrables grandeurs de Dieu. C'est les grandeurs de Dieu en mouvement. Le bruit des grandes eaux. Oui, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Et c'est pour ça qu'il le prend. C'est que quand Dieu est comme l'ombre de l'âme, on a l'impression que c'est Dieu qui travaille l'âme. Et qu'on a le mouvement de Dieu. Et alors ici, il en donne le symbolisme, ce mouvement de Dieu, pour montrer que nous trouvons dans Ézéchiel cette marche intérieure de Dieu. Du prophète, et qui exprime auprès d'une multitude ou d'armées innombrables qui symbolisent ces innombrables grandeurs de Dieu. L'âme les connaît parfaitement. Ici, dans le bruit d'un seul pas que le Seigneur fit pour elle. Un seul pas que le Seigneur fit pour elle. Oui bien, l'opposition avec Adam qui entend le pas de Dieu. Adam, après le péché, le pas de Dieu dans le jardin, il est extérieur. Par la grâce, l'âme entend un seul pas de Dieu. Et ce seul pas de Dieu, c'est comme les myriades des myriades. Et tout est contenu dans cet unique pas de Dieu. Puisqu'il a dit la multiplicité et l'unité se trouve réunie. Et tout se ramène à la simplicité. L'âme les connaît parfaitement ici dans le bruit d'un seul pas que le Seigneur fait pour elle. Enfin, que n'éprouvera-t-elle pas quand elle entendra le bruit du battement d'ailes de ces animaux? Car au dire du prophète, il ressemblait au bruit des grandes eaux et à la voix du Très-Haut. C'est la voix du Très-Haut. Écoutez-le. C'est la voix de l'Esprit-Saint. C'est la voix des grandes eaux. C'est une voix qui a quelque chose d'unique. Elle entendra le bruit du battement d'ailes de ces animaux. Ce bruit signifie l'impétuosité de ces eaux divines dont nous avons parlé et qui investissent l'âme quand l'Esprit Saint l'élève dans la flamme d'amour et la remplit d'allégresse. Donc c'est bien l'Esprit Saint, le bruit et la voix, c'est l'Esprit Saint. Ce bruit signifie l'impétuosité de ces eaux divines dont nous avons parlé et qui investissent l'âme quand l'Esprit Saint l'élève dans la flamme d'amour et la remplit d'allégresse. L'âme alors jouit de la gloire de Dieu dans la ressemblance et la faveur de son ombre. C'est ce que le prophète lui-même enseigne quand il dit que la vision de ces animaux et de ces roues était une ressemblance de la gloire du Seigneur. Mais oui, malheur à la place de la figurée d'extérieur, c'est vécu d'intérieur. Ça, je crois que c'est une exigence mystique. C'est vraiment une exigence mystique qui touche ce qu'il y a de plus réel dans la prophétie d'Ézéchiel. Parce que si vous restez uniquement au symbolisme, vous n'êtes pas dans l'intention du prophète. Vous restez l'écorce pour toucher la moelle, comme dit Sainte Catherine. Vous dépassez l'écorce. Dépasser l'écorce, c'est pas du tout chasser le symbolisme, mais c'est regarder le symbolisme dans sa signification profonde et non pas dans sa signification sensible, visible. C'est comprendre le symbolisme pris dans le mouvement même d'amour de l'Esprit Saint. Et c'est assez extraordinaire comme vision. Alors évidemment, on peut rapprocher ça, oui, d'une poésie, d'un réalisme absolu et très très moderne. Il n'y a rien de plus moderne. C'est de représenter ça avec ce point pictural, c'est extraordinaire. Une roue dans laquelle il y a plein de trous, dans laquelle il y a un mouvement. Vous voyez très bien ça. Et ce qu'il y a de mieux, c'est de représenter ce mouvement. Et là, c'est vu de l'intérieur, et c'est l'action de l'amour, de l'Esprit Saint, des grandes eaux de l'Esprit Saint. Et à quelle élévation ne se sent-elle pas parvenue, cette bienheureuse âme? Quelle grandeur ne reconnaît-elle pas en elle? Quelle n'est pas son admiration lorsqu'elle contemple sa beauté, sa sainteté? Qui pourra nous le dire quand elle se voit ainsi plongée dans ses eaux abondantes des divines splendeurs? Elle considère comment le Père éternel les fait pénétrer dans sa partie supérieure et dans sa partie inférieure, qui est le corps, absolument comme il fut fait pour Axa quand elle demanda à son père une pareille faveur. Ô excellence de Dieu, que vous êtes admirable, bien que ces membres des attributs divins ne soient qu'un être simple et ne se goûtent qu'en lui, chacune d'elles se voit et se goûte d'une manière distincte, aussi embrasée l'une que l'autre, car chacune d'elles est substantiellement l'autre. Ô abîme de délices, vous êtes d'autant plus riche que vos trésors sont plus cachés dans votre unité et simplicité infinie. Là, on connaît et on goûte l'un de vos attributs.